Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Moi, ce que j'en tire, c'est que ben, le sentiment de racisme, c'est un sentiment qui est humain, que beaucoup de mes collègues qui ont ces pensées-là, ce sont souvent des collègues qui le sont devenus, ils ne sont pas nés racistes, ils le sont devenus. Ce qui les a fait devenir comme ça, c'est une situation qu'on a laissé pourrir, et ça, c'est une réalité.
En avril 2012, Samy demande à être muté à Grenoble. Il retrouve l'uniforme, les missions du quotidien d'un policier et aussi une forme de quiétude. Les renseignements généraux semblent bien loin désormais. Il fait maintenant partie d'un équipage de police secours et se satisfait de sa situation jusqu'à ce jour d'août 2012 où il part avec ses collègues pour intervenir sur le braquage d'une bijouterie en plein centre-ville. Je suis Maud de Carpentier et vous écoutez le cinquième épisode de l'Arabe des services.
Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français.
Affirmer que la police française serait raciste, ce n'est pas raisonnable.
Il faut une police qui soit à l'image de la population.
Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect.
Pour moi, j'essaye de faire le bien pour tout le monde, quoi. Il fallait une police black, blanc, beurre aussi, quoi.
On arrive les premiers en fait. C'est une place du centre-ville de Grenoble avec 2-3 bars avec plein de terrasses remplies, bondées de monde à cette heure-là. Il faisait chaud. Et en fait, il y a tellement de monde sur la place Notre-Dame, énormément de monde. Moi, j'arrive pas à voir tout de suite les tireurs. Et puis à un moment, je sens qu'on nous tire dessus, j'entends des... Et ça tire. On est tous pris de panique à ce moment-là. Moi, mon premier réflexe est de me dire que la voiture ne nous protège pas. Au moment où la voiture s'arrête, je dis aux collègues aux abris, et je veux sortir de la voiture pour aller me mettre dans un abri à côté. Il y avait un musée pas loin, je voulais me mettre sur un des murs du musée pour me cacher et avoir un vrai abri. Et en fait, au moment où j'ouvre, je mets un pied dehors, ma collègue elle tape une marche arrière, je me retrouve à faire un grand écart. Avec un pied dedans, un pied dehors, la porte qui me tape dans la gueule, qui m'assomme, je tombe par terre. Ça me rafale à ce moment-là. Et mon collègue, en fait, qui commence à braquer les braqueurs, il fait feu. Et je sais pas si c'est avant ou après qu'il ait fait feu, mais il me crie « Rentre dans la voiture !» très fort. Moi, je me relève tant bien que mal et je replonge dans la bagnole. Puis là, j'entends le collègue qui tire « Bah, bah, bah !» Les braqueurs s'échappent. Probablement qu'avec ce coup de feu, ils me sauvent la vie, sincèrement. Pour moi, je sens les balles passer, j'entends les petits pfiou. Moi, je suis sonné. Tout est un peu... c'est le brouillard à ce moment-là. Et la seule chose à laquelle je pense, à ce moment-là, je me dis, mais putain, mais pourquoi est-ce que j'ai pas été formé? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé aller sur le terrain?
Samy et ses collègues s'en sortent indemnes. Les braqueurs, eux, ont blessé le bijoutier et pris une passante en otage au moment de leur fuite. Finalement, elle est relâchée. Le jeune policier, qui a alors 32 ans, est ensuite convoqué avec ses collègues par le DDSP de l'Isère, le numéro 2 de la police au niveau du département, pour une cérémonie de remise de récompense.
On est convoqué chez Monsieur Bloin, le directeur adjoint. Et il nous donne 150 euros en espèces. Donc des lettres de félicitations et 150 euros en espèces. En nous disant, j'ai mis 50 euros de ma poche. Et moi, je regarde ça et je me dis, c'est une insulte. C'est une vraie insulte. Je me sens insulté par ça. Parce que je viens d'un service où traite des sources humaines qui sont pas forcément honorables, on va dire. Et je me sens vraiment insulté par l'argent. L'aide de félicitations, ça me fait plaisir, c'est une reconnaissance qui est là. Mais les 150 balles là, c'est l'argent que moi ou mes collègues donnaient, quoi. Il y a eu plus de 100 cartouches qui ont été tirées ce jour-là, 100 cartouches de Kalachnikov qui nous ont été tirées dessus. Ça fait à peu près 1,50€ la cartouche, quoi. Par cartouche, quand on tire dessus, on te donne 1€. Donc j'ai pris l'argent et en fait, je l'ai donné à des gens qui étaient à l'accueil. J'ai vu une femme qui avait la gueule bien amochée. J'ai vu qu'elle avait des enfants, donc je lui ai donné une partie de la somme. Et l'autre partie de la somme, je l'ai distribuée dehors, dans la rue. Je crois que le soir, j'ai payé des coups à des gens avec. J'ai rien pris pour moi avec, quoi. Donc j'en voulais pas.
Pourquoi ?
Parce que c'était de l'argent sale. C'était insultant. Ma vie, elle vaut pas 150€. La vie de mes collègues, elle vaut pas 150 balles. Une lettre de félicitations toute simple, c'était suffisant. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Il y a une lettre de félicitations aussi où le monsieur le directeur, là, qui était en train de devenir le conseiller spécial de Valls à ce moment-là, il était déjà plus là. Il me fait un petit courrier en disant « J'ai appris que vous avez subi un braquage. Il m'est agréable d'apprendre que vous avez agi. Ah, c'était agréable que je me fasse tirer dessus, monsieur. Super, pas de souci. » Mais ça, c'est les formules toutes faites de la police, quoi. Là, j'ai la rage. Au fond de moi, j'ai la rage. Et ce braquage fait qu'on me retire de la patrouille.
Dans le but de le ménager après cette fusillade, sa hiérarchie mute Samy au service des plaintes. Dans un groupe qui est créé en 2012, uniquement à Grenoble, le groupe opérationnel des procédures exceptionnelles. Son travail, traiter des milliers de procédures qui sont en attente depuis des années. Il découvre qu'on attend de lui de classer rapidement les plaintes. Pendant près d'un an et demi, il tente de faire son travail, souhaite relancer certaines enquêtes, rencontrer des victimes, mais il parle d'une hiérarchie qui ne le soutient pas. Une hiérarchie qui lui demande parfois de réaliser des actes contraires à ses principes.
Moi, je suis au bureau des plaintes. Il y a eu, en fait, une liasse de plaintes qui a été volée. Non, moi, je m'en rends pas compte. Moi, je suis pas concerné directement. C'est le fameux major bon à rien qui vient me voir, qui me dit « Écoute, il y a une liasse de plaintes qui ont été volées. Tu vas reconvoquer toutes les personnes et tu vas refaire un dépôt de plainte. Et tu fais en sorte que tu dis pas que la plainte a été volée, tu mets sous silence, tu faut pas leur dire. » Je lui dis « Hors de question. » Moi, si j'appelle les personnes, ben, il faut que je leur apprenne que s'ils me demandent pourquoi, ben, je vais leur dire pourquoi. Et puis, je vais rendre compte au parquet. Et quand j'aurai le parquet au téléphone, ben, je lui dirai ce qui se passe. Parce que moi, mon chef, c'est le procureur de la République. J'essaye d'être loyal vis-à-vis du procureur. Et puis, je vais lui dire. Si vous vous avez merdé, si vous n'êtes pas en mesure de tenir votre administration, c'est pas de ma faute. Alors, il me dit, c'est le commandant qui demande ça. Donc, il est venu me foutre la pression.
Donc, le N+2.
Ouais, il est venu me foutre la pression directement. Leur argument, c'était « Je suis le commandant, t'es gardien de la paix, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule. » Donc, je leur ai dit « Non, je ferme pas ma gueule et je ferai pas ce que vous me dites. Et si vous voulez me sanctionner, sanctionnez-moi. Je veux une sanction. » L'avantage, c'était de cacher, de laver le linge sale en famille, de cacher les choses et ne pas... Une liasse de plaintes qui disparaît d'un commissariat, c'est quand même problématique. Hein. Il y a 30 victimes derrière, quand même. Donc, moi, je les envoie chier, clairement. Et puis, clairement, il me dit, ton grade de brigadier, tu peux te gratter, tu l'auras jamais.
Cette histoire de plainte volée semble signer la fin de carrière de Samy à Grenoble. Le fait que ce jeune OPJ de 32 ans tienne tête à sa hiérarchie ne plaît pas. Mais Samy refuse de commettre quoi que ce soit d'illégal.
Oui, bonjour. Alain. Oui, c'est moi, c'est lui.
Sa version a été confirmée par un autre policier grenoblois de l'époque, Alain Devigne, lui-même connu pour être parti en guerre contre sa hiérarchie.
J'ai été gardien de la paix à Grenoble de 87 à 2020. Et j'étais en police secours essentiellement.
J'ai fini ma carrière à la brigade de...
Cet ancien gardien de la paix a témoigné dans plusieurs affaires de GoFast et de trafic de stupéfiants en mettant en cause les méthodes policières. Il a dénoncé pendant plusieurs années les liens très étroits, voire illégaux, qui existaient entre les dirigeants des PJ de Grenoble et de Lyon avec certains indicateurs. J'ai appelé l'ancien gardien de la paix pour revenir sur cette époque.
J'avais déposé une plainte et début août 2014, Samy m'informe que la plainte que j'avais déposée en décembre 2013 a disparu, toute l'alias complète a disparu. Je découvre que j'ai en face de moi un OPJ, une des personnes les plus honnêtes de l'hôtel de police de Grenoble. C'est-à-dire qu'il m'informe qu'une liasse complète de plainte a été volée, qu'il a fait un avis au parquet, au magistrat de permanence, que le magistrat a ordonné que les 36 plaignants, parce qu'il y a 36 plaintes qui ont été volées, que les 36 plaignants soient réentendus. Je sais que son honnêteté n'avait pas été appréciée par son supérieur hiérarchique. Samy est d'origine maghrébine. Et je sais malheureusement que dans le service où il était, nous avions une chef de service qui n'appréciait pas les Maghrébins.
Petit à petit, au cours de l'année 2014, Samy réalise qu'il va quitter la police. Il voit bien que sa notation reste mauvaise malgré tous ses efforts et ses bons résultats. Il constate, une fois de plus, que sa demande pour devenir brigadier n'est pas satisfaite. Et progressivement, il abandonne la partie. En septembre 2014, il rentre finalement à Strasbourg grâce à une permutation avec un autre collègue.
Là, je retrouve mes anciens collègues du renseignement. Je me dis que ça va peut-être mal se passer pour moi là-bas. Donc, je suis reçu par le directeur départemental adjoint. Il me dit, on va repartir sur de bonnes bases, ne vous inquiétez pas. Ne démissionnez pas. Restez avec nous. Ça va bien se passer. Je suis OK, pas de problème. Je dis, moi, j'ai passé l'OPJ, je suis OPJ, je veux juste un poste. Même en bureau de police, hein, ça me gêne pas, je ne demande pas la lune, je veux juste un poste où je fais de la procédure, c'est tout ce qui m'intéresse. J'apprends qu'ils vont me mettre au geôle. Et mon travail, ça va être de mettre les gens à poil et de les fouiller. On demande de se déshabiller, de se baisser et de tousser pour vérifier qu'il n'a pas caché des choses dans les parties anales. Donc, tout ce que je déteste, en fait, hein, parce que c'est humiliant pour la personne. Et moi, c'est voilà, c'est pas mon job. Quand moi, on me dit, en gros, tu vas être en patrouille, tu vas faire ça. Moi, je dis, ça se passera pas comme ça. Je préfère crever plutôt que de faire ça. Ça arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Je ne ferai jamais ça. Il se trouve que le directeur, c'est le commissaire Courage qui s'était fait lyncher à Villiers-le-Bel. Et lui, c'est un mec particulièrement exécrable, qui parle mal aux collègues, qui est un tyran, un mec qui crie sur les gens, quoi. Et je vais le voir, il me laisse pas le temps de parler, et il me parle, il me crie dessus, quoi, qu'est-ce que vous voulez ? Il me crie dessus. Mais vraiment, quoi. Et je lui dis, mais vous avez dit, lorsque que vous nous avez accueillis, que votre porte était ouverte, moi je viens vous parler. Et il me crie dessus. Et là, je lui dis, écoutez, maintenant, vous allez vous calmer un petit peu avec moi. Et je craque, en fait. Je commence à craquer, à pleurer, tout ça. J'enlève mes galons, je lui balance à la gueule, je prends ma carte de police, je lui dis, tenez, je lui fais un bras d'honneur et je lui dis, écoutez, je vous rends mon devoir de réserve, et je reprends ma liberté d'expression, je me casse, quoi.
Entre le moment où Samy craque devant son directeur et le jour où la démission du policier est acceptée, il se passe plusieurs mois. Plusieurs mois où Samy est encore une fois arrêté pour dépression. Il n'a plus la force de travailler pour cette institution qui n'a rien d'autre à lui offrir que la fouille corporelle des gardés à vue. Finalement, en décembre 2014, le télégramme officiel est publié. Il annonce que Samy n'est plus cadre dans la police nationale. Le jeune homme est alors en voyage à l'étranger. C'est en janvier qu'il revient, une toute dernière fois, à l'hôtel de police de Strasbourg pour rendre ses effets personnels. Le 7 janvier 2015, très précisément.
Je suis à la maison, je prépare tous mes effets qui me restent de la police nationale, ce qu'il faut que je les rende, le gilet pare-balles et tout ça. Donc je prépare le tout. Et j'y vais. On est le 7 janvier quand je vais rendre tout ça, 7 janvier 2015. On est le matin, je vais déposer le gilet pare-balles, les chemises, les chaussures, je donne tout, je garde rien, absolument rien, je donne tout, je veux vraiment plus rien de police chez moi. Il est à peu près 10h30, 11h quand je quitte l'hôtel de police.
Vous croisez des gens, vous dites au revoir à quelques collègues?
Je parle avec personne, je dis au revoir à personne, puis je rentre à la maison. J'allume la télé, et là je vois BFM TV... Attentat, Charlie Hebdo. Et là, je m'assois, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé?
12 personnes qui sont mortes.
Je vois qu'il y a un policier, il s'appelle Ahmed Merabet, il est buté.
On a un collègue qui est presque entre la vie et la mort.
Je vois... Je suis en état de choc. Et... J'entends parler de la filière des buts de Chaumont, des frères Kouachi. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est. Je suis pas bien, en fait, et. Les larmes commencent à me couler le long de mes joues, quoi. Et toute l'après-midi, je suis en train de pleurer. J'étais tout seul. Et je pleure, je sais pas pourquoi je pleure. Mais je pleure toute la journée, je pense que. Le fait d'avoir rendu ma tenue, tout ça, et à un moment, j'ai ce sentiment bizarre en me disant, mais là, je suis plus flic. Depuis des quelques heures, je suis plus flic. Et quand je vois ça, que je vois ce collègue et tout ça, j'ai envie d'être au commissariat avec les collègues, quoi. J'ai envie d'être avec eux. Je suis pas bien, donc, je vais participer. Il y a un rassemblement spontané suite à cet attentat place Kléber le soir, donc, je vais me rassembler et je vais du côté où il y a quelques policiers qui se rassemblent, donc je me rassemble avec eux.
À la fin de nos discussions, après ces longues heures passées avec Samy, je tente d'analyser avec lui ses 10 années dans la police. Au RG à Strasbourg, puis à la DCRI, en police secours à Grenoble, puis au service des plaintes. Quand je lui demande ce qu'il retire de tout ça et du racisme qu'il a vécu, dès le début, dès la cantine de l'école de police à Lyon, c'est comme si l'esprit de corps, la défense de l'institution ou son respect prenaient le dessus.
C'est les fonctionnaires qui sont racistes, c'est pas l'institution. Notre pays, il n'est pas raciste. Et la police nationale, en tant qu'institution, elle n'est pas raciste. Quoi qu'on voie et quoi qu'on en dise. Ce qui les a fait devenir comme ça, c'est une situation qu'on a laissé pourrir, et ça, c'est une réalité. Quand un policier se fait agresser, quand un policier, il faut un vrai suivi. Il n'y a aucun suivi psychologique. Il y a 50 suicides par an, minimum. Dans la police, 50, c'est énorme. C'est un hôtel de police tous les 10 ans. C'est un bureau de police qui suicide chaque année. C'est énorme. Et ça fait des années, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que c'est comme ça. Et l'administration ne fait absolument rien.
D'après un article de Libération de juin 2021, et selon les chiffres communiqués par le service d'information et de communication de la police, en moyenne, 45 agents de police se sont suicidés chaque année entre 1993 et 2020. Ils étaient 59 en 2019, une année particulièrement meurtrière pour la profession.
Il faut que chaque fonctionnaire soit suivi par un psychologue, et parce que c'est un métier difficile, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la misère, parce que on s'en prend plein la gueule. Moi, je me rappelle d'un matin où je prenais mon service, j'étais de permanence, donc j'étais venu un peu plus tôt, à l'hôtel de police de Strasbourg. Et 30 minutes avant mon arrivée, j'avais croisé un collègue qui était là, qui commençait à 5h30. Je discute avec lui, je le salue. Je parle de son frangin qui est OPJ, avec qui je m'entends super bien et tout. Et puis je le salue, je monte au bureau et je redescends une heure plus tard et je vois tous les collègues abattus. Le mec, il s'était mis une balle dans la tête dans les toilettes du commissariat.
Quelle analyse de ces 10 années passées dans la police?
Je dis que c'est beaucoup de gâchis. Je pense que j'ai gâché beaucoup de ma vie. J'ai cumulé 2 ans de formation, un an d'école gardien, 3 mois et demi, 4 mois pour adjoint de sécurité, 5 mois d'OPJ. Donc j'ai passé quasi 2 ans loin de ma famille. J'ai pas eu l'évolution que j'estimais mériter. Quand j'étais en école, tout se passait bien. Finalement, les meilleurs moments que j'ai passés, c'était quand j'étais à l'école et quand j'étais à l'accueil de l'hôtel de police où j'avais pas de grade, en fait. Ça posait pas de problème. Mais à partir du moment où je voulais avoir des grades et des trucs comme ça, là, ça a commencé à poser un souci. Et ce qui posait un problème, c'est que je connaissais bien mes textes, que j'étais quelqu'un d'assez cultivé et j'avais les moyens intellectuels pour y arriver.
Donc un sentiment de gâchis.
Sentiment de gâchis et d'injustice, ouais. Mais je suis pas aigri.
Aujourd'hui, cela fait plus de 8 ans que Samy a quitté la police nationale. Il avoue qu'il a mis plusieurs années avant de réaliser qu'il n'était plus policier. Les premiers mois, il lui arrivait encore de courir dans la rue pour relever une plaque d'immatriculation. La mort du jeune Naël, en juin 2023 à Nanterre, tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier, a profondément choqué Samy. Mais il y tient. Ce n'est pas une bavure, un mauvais flic ou un flic raciste qui fait toute la police. Et la clé, la solution dans tout ça pour Samy, ça semble fou, mais c'est la même que quand il avait 19 ans et qu'il courait lui aussi pour échapper à un contrôle routier. Sa solution à lui, c'est d'intégrer, encore et toujours, les forces de l'ordre. Et d'avoir, un jour peut-être, une police à l'image de la diversité de la population française. Une police riche, variée, multiculturelle, multiconfessionnelle, issue de l'immigration, jeune, vieille, des villes, des campagnes et des banlieues.
Moi, si j'avais pu continuer mon métier, je serais resté. J'ai pas quitté la police parce que j'en avais envie, hein. J'ai claqué la porte parce que j'en pouvais plus. Mais c'est le plus beau métier du monde. Et c'est ce que je dis aux jeunes du quartier. Vous, vous niquez la police. Moi, j'ai décidé de lui faire l'amour. Par la force des choses, les choses, elles vont changer. Parce que moi, quand j'étais dans une patrouille, j'avais pas d'outrage, il n'y avait pas de problème. Et puis, quand il y avait un collègue qui se comportait mal, même si ça allait pas très très loin derrière, le collègue, il savait que moi, j'aimais pas ça. Et que si jamais ça allait pas, si jamais il y a l'IGPN qui débarque, moi, je vais pas fermer ma gueule. Moi, je vais dire ce qui s'est passé, je vais dire la vérité. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui. Ouais, je suis rentré dans la police avec plein d'espoir. Après, je peux pas parler de désillusion parce que je savais que ça, forcément que ça allait pas être facile. Mais il y a quand même une chose, c'est que avant de rentrer dans la police, dans mon ancien quartier, il y avait très très peu de gens qui voulaient rentrer. Personne ne voulait rentrer. Et le fait d'être passé par la police et en plus d'avoir fait une carrière dans des services spécialisés et tout ça, ça a suscité quelques idées. Parmi les jeunes, je sais qu'il y a quelques jeunes de mon ancien quartier qui ont décidé de sauter le pas parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc peut-être que ça a ouvert le sillage pour d'autres, quoi. Et donc je garde espoir. Moi, j'étais un peu seul. On n'était pas assez nombreux. Il n'y avait pas trop de personnes pour me défendre. Mais à un moment, si on est nombreux dans la police, par la force des choses, voilà, les choses, elles arrêteront. À un moment, il faut y aller. Il faut partir du principe qu'on ne va pas faire carrière. Au début, voilà, n'y allez pas pour faire carrière. N'allez pas dans la police dans l'objectif de devenir commissaire, brigadier ou n'importe quel grade. N'y allez pas dans l'objectif d'aller jusqu'à la retraite non plus. Dites-vous, je vais faire un CDD de 10 ans. Je vais profiter des formations que m'offre la police. Je vais profiter de tous les avantages que je peux avoir au sein de la police nationale. Prendre toutes les compétences. Mais pendant tout le temps que vous êtes en patrouille, voilà, si jamais il se passe quelque chose, dites la vérité. Ne cachez plus.
L'Arabe des services est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média. Une série écrite par Maud de Carpentier, réalisée par Théo Albaric, assistée de Marek Panchaud. Merci à Samy pour sa confiance, aux producteurs délégués Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunègre. Merci à Sandrine Vandel qui a dirigé la production avec Emma Seller, Jeanne Longhini, Cyril Pocro, Lilou Delclit pour le marketing et enfin Gaël Job pour les relations presse. La vignette est signée Lucille Lissandre, Léa Varin s'est chargée des photos, Ludine Isol et Alix Duplessis d'Argentré ont assuré la partie juridique et on les remercie aussi. À très vite.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.